Bonjour à chacun. C'est avec plaisir que je viens partager avec vous une parole qui a été expressive pour moi, évocatrice de la façon dont Dieu nous parle et m'a amené à considérer ainsi la façon de reconnaître la voix de Dieu au milieu de toutes les autres voix que nous pouvons entendre, qui viennent de l'extérieur ou qui montent de nos propres cœurs, de manière aussi à faire la différence avec la voix de l'ennemi et des paroles qui, quelque part, nous placent sous une condamnation et sous un joug. Alors, à quoi ressemble la façon dont Dieu nous parle? Comment s'adresse-t-il en particulier à l'Église? Pour ce faire, je vous propose une lecture de 7 versets que l'on trouve dans le livre de l'Apocalypse et qui concerne une des lettres à une église. C'est la première lettre écrite à l'ange de l'église d'Éphèse. Je vous la lis. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Cependant, tu as ceci pour toi. C'est que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes, pour lesquels moi j'ai aussi de la haine. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc comment Dieu s'est-il adressé à cette église? Et on trouve à peu près le même format pour les 7 églises. Au verset 2, je vous fais remarquer la façon dont Dieu commence en leur disant « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. » La première des choses que Dieu fait et qui me frappe, c'est de nous affirmer son amour, de nous en assurer. C'est ce qu'il fait en disant « Je connais, il porte intérêt, il considère, il met en valeur et il aime. Il ne connaît pas pour nous juger, pour nous condamner ou nous accuser. Il connaît parce qu'il nous aime. » Et quand il s'agit de connaître dans ce texte, il s'agit du fruit d'une observation attentive, proche, qui amène au discernement. Alors, en paraphrasant ce que Dieu dit à cette église, je connais ton cœur, je sais que tu as essayé de faire de ton mieux, tu as été motivé, préoccupé de me servir, soucieux de la vérité et de la bonne doctrine, tu as œuvré avec persévérance, il le souligne deux fois. Bien sûr, nous devons remarquer dans cette lettre, comme dans chacune des lettres, il y a une double orientation. Il y a une adresse qui est collective, mais à la fin, il y a une interpellation qui est individuelle et une réponse qui est propre à chacun. Comme il le fait donc avec l'église d'Éphèse, Dieu, nous concernant, nous assure de son amour. Il donne une parole d'appréciation et de reconnaissance. Il est capable de nous reconnaître dans notre identité propre qu'il connaît. Ça me fait penser à un texte d'Ésaïe dans le chapitre 49 où Dieu dit ceci au peuple d'Israël: une femme oublie-t-elle son nourrisson? N'a-t-elle pas compassion du fils de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Le proverbe 24, verset 16 nous dit: sept fois le juste tombe et il se relève. Dieu est toujours prêt à nous relever pour que nous devenions, chacun pour notre part, la personne que nous sommes appelés à être, ou l'Église que nous sommes appelés à être. Donc le premier point que je voudrais souligner dans ce partage, c'est la façon dont Dieu nous parle et avec quelle intention il le fait. Tout cela pour différencier, que nous soyons capables dans notre vie de différencier cette voie-là avec celle de l'ennemi. L'ennemi, lui, le Satan, va nous placer rapidement, tout de suite, d'emblée, sous une condamnation, immédiatement. Et il va chercher ainsi à nous paralyser. Il n'a aucune compassion, vous savez. Il en est incapable, il ne peut pas faire semblant. Il est rempli de haine, il hait Dieu et ses enfants, l'amour que vous avez pour Dieu et son identité, l'identité de l'adversaire, de l'ennemi de nos âmes, est associé au mensonge et à l'accusation. Il y a une différence entre la voix de Dieu et celle des ténèbres et de l'ennemi. C'est ce que je voudrais vous montrer au travers de ce partage. Il y a des prédicateurs, beaucoup de prédicateurs que j'ai pu entendre, ou de commentateurs parfois dans certains ouvrages, qui commentent ce passage uniquement sous le biais et le parti pris du reproche qui est adressé à cette église. Eh bien, c'est peut-être d'une manière différente que j'aborde cette lettre, et dans le souci, non pas de faire une étude exhaustive et complète de ces lettres ou de cette lettre, mais de nous aider à identifier dans la façon dont Dieu nous traite en tant que ses fils et ses filles s'adressent à nous. Je remarque donc que c'est dans un deuxième temps seulement que Dieu va définir le problème de l'église d'Éphèse. Tu as perdu ton premier amour. J'aimerais illustrer cela avec la façon dont un papa qui est bien dans son rôle, qui est suffisamment mature pour le faire, eh bien, va pouvoir éduquer son enfant et s'adresser à lui lorsque il aura besoin d'avoir un dialogue avec lui, une relation éducative. Lorsque nous devons faire prendre conscience à notre enfant d'un problème qui a besoin d'être mis en lumière, nous sommes appelés, nous aussi, comme Dieu l'a fait dans cette lettre, à lui affirmer ou réaffirmer préalablement que nous l'aimons. Et en paraphrasant ce père que j'imagine, « Je suis ton papa », ou alors c'est la maman aussi, « Je suis ta maman », « Je serai toujours là pour toi, je t'aimerai toujours, mais il y a en ce moment quelque chose qui ne va pas dans ton comportement. Parce que je t'aime, je vais t'en parler. » C'est ainsi que Dieu s'adresse à ses enfants et traite avec nous. La correction est appelée à amener la prise de conscience, je dirais même la révélation sur le péché ou le mal, et non la condamnation et le rejet. Dans la rencontre avec Dieu, la marche avec Dieu, c'est la révélation qui produit la repentance. Ce n'est pas l'accusation ou la condamnation. D'ailleurs, l'Écriture nous dit que c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Un peu plus loin, donc au verset 5, le Seigneur dit à cette église: « Souviens-toi d'où tu es tombé. Regarde la position ou la disposition dans laquelle tu étais. » Oh, je reviens au père avec son enfant qui est toujours dans ce rôle éducatif. qui pourrait dire ainsi, si tu continues dans cette voie-là, tu ne deviendras pas la personne, tu sais, que tu es appelé, que tu es destiné à être. La lucidité te fera défaut, tu ne verras plus clair. Tu vas perdre quelque chose de ta véritable identité, ton témoignage même, quelque chose qui va être retiré de toi, de ta vie, de ta personne. Un autre point encore que je voudrais souligner, le Seigneur dit à cette église, j'enlèverai ton chandelier de sa place. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit. C'est une autre caractéristique de la voix de Dieu. La parole finale de Dieu à chaque église se termine par une promesse. C'est une réponse d'ailleurs qui est appelée à être individuelle. Il est dit, si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. La parole se termine donc par une promesse, c'est-à-dire qu'elle donne un avenir, qu'elle donne une perspective ouverte qui peut être heureuse, un accomplissement qui est contenu dans cette promesse. Il est question de manger de l'arbre de vie. Je te donnerai du fruit de l'arbre de vie. On pourrait peut-être associer cet arbre au bois de la croix où Christ a tout pris ou a tout accompli et acquis. Dieu nous donne ainsi la capacité d'avoir une pensée renouvelée, le pouvoir de vivre une vie nouvelle. C'est vraiment une espérance qui est ouverte pour notre vie. C'est ce que la promesse donnée dans ce texte peut communiquer. Nous sommes amenés à croire ainsi que nous pouvons marcher sur un chemin sur lequel nous ne pouvions pas marcher précédemment avec nos propres forces. Nous pouvons devenir tout ce que Dieu a envisagé que nous soyons. Ça me rappelle un texte de l'Ancienne Alliance dans le livre du Deutéronome. Choisis la vie, dit Dieu à son peuple, avant son entrée dans la terre promise. Dieu les place devant un choix. Et il leur dit ceci, « Choisis la vie ». Alors, pourquoi choisir la vie? Ils ont déjà la vie. Mais ce que Dieu semble leur dire, c'est « Choisis la vie au cœur de la vie, telle que Dieu l'a envisagée pour toi, telle qu'elle est ordonnancée par Dieu dans son dessein éternel. » Il est important de saisir ainsi ce que l'Esprit dit aux églises. C'est la main tendue de Dieu. Le dessein de Dieu est clairement exprimé. Il n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors donc, la voix de Dieu vient toujours avec une promesse, une ouverture vers un avenir, une destinée. La voix de l'ennemi, elle, viendra avec la condamnation, la désespérance, un horizon sombre, c'est un menteur. L'écoute. Alors l'écoute dont il est question à la fin de cette lettre, l'écoute personnelle, c'est cette capacité à être attentif, réceptif. C'est un comportement actif d'ailleurs, l'écoute, voulu. C'est une démarche personnelle, un besoin d'intimité avec Dieu, d'écoute de sa voix. Apprendre à la reconnaître, la voix de Dieu, au milieu de toutes les voix qui se font entendre et du brouhaha ambiant. Alors peut-être ces dernières semaines, ces derniers mois, ces 2 mois pendant lesquels nous avons été pour la plupart confinés, selon l'expression consacrée, Dieu nous a mis sur pause pour que nous soyons à l'écoute d'une voix que peut-être nous n'arrivions pas à entendre, qui ne nous parvenait pas pendant tout un temps de notre vie ou de notre marche avec Dieu. C'est vrai donc, dans cette période si particulière que nous avons traversée, nous avons été tous frappés par le silence qui s'est abattu du jour au lendemain sur notre environnement. Alors que nous avons redécouvert les bruits, si apaisant de la nature. Et bien sûr, c'est vrai pour ceux qui ont la chance de vivre quelque peu à l'extérieur des villes ou des grandes villes particulièrement. Et moi, c'est ce qui m'a frappé, donc, dans ayant la chance d'avoir un grand jardin, d'être en périphérie d'une petite ville, d'un village, d'un gros village, et de me retrouver presque en pleine campagne, eh bien, j'ai pu apprécier un ensemble de bruits auxquels je ne faisais plus attention. C'est un silence qui nous a été imposé par les circonstances. Alors, j'en profite pour vous poser la question. En avez-vous profité pour vous mettre à l'écoute de la voix de l'esprit? Si ce n'est pas encore fait, il est peut-être toujours temps de le faire et de recevoir ainsi pour vous-même une parole personnelle, appropriée, spécifique, celle que vous allez recevoir, je dirais, de première main, pas par un pasteur, une prédication, une écoute d'un média quelconque, parce que, bien sûr, les moyens modernes, technologiques, Internet et tous les sites auxquels nous pouvons accéder nous permettent d'entendre beaucoup de choses. Mais ce qui est le plus important, ce qui va être déterminant, c'est une parole que Dieu va vous donner personnellement parce qu'elle vous est nécessaire, parce que vous recherchez Dieu et parce que elle est en lien avec ce que vous êtes et avec la situation qui est la vôtre et votre relation propre avec Dieu. Alors, le média que Dieu nous a donné, c'est celui du Saint-Esprit, en lien avec la parole de Dieu qui est vivante. Vous souvenez de cette question de Jésus aux disciples, « Qui dit-on que je suis ?» Et bien sûr, il y a eu plusieurs réponses, et puis il y a eu celle que Jésus a voulu susciter, et c'est l'un de ses disciples, Pierre, qui a exprimé cette parole qui lui était révélée, inspirée à ce moment-là. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Pourquoi Jésus s'y est-il pris de cette manière? De manière à ce que chacun des disciples puisse avoir une découverte qui lui est propre, personnelle, non pas de ce qu'il aura entendu, mais de ce que son cœur aura écouté, que l'Esprit veut lui communiquer par révélation. C'est l'expérience que Pierre a faite. Et c'est ces paroles-là dans notre vie qui font toute la différence. Au début de ce confinement, je sais que la première semaine, un peu abasourdi par ce qui était en train de se passer, me posant plein de questions, il y a une parole qui, un matin, alors qu'il y avait un très beau lever de soleil, un temps très calme, très paisible, où il n'y avait plus en effet aucun bruit, en lisant un texte de l'Écriture, il y a une paix immense qui a envahi mon cœur, qui m'a étonné, qui m'a surpris, qui m'a parlé de la souveraineté de Dieu et qui m'a fait m'incliner dans mon bureau sur la face contre terre, tellement étonné par ce que Dieu était en train de me montrer. L'écoute, c'est la capacité à être attentif et réceptif. On l'a dit, c'est un comportement actif et voulu. Ce que nous entendons et écoutons peut finir, là je parle d'une manière plus générale, si nous ne veillons pas, tout ce que nous entendons et écoutons, et il y a tellement de voix qui nous parviennent, peut finir par s'installer dans nos pensées, nos cœurs, et dicter notre façon de penser, de nous comporter, notre perception de nous-mêmes, des autres ou de Dieu lui-même. Celui que la Bible appelle l'ennemi de nos âmes s'appelle aussi, souvenez-vous-en, le prince de la puissance de l'air. Il s'efforce d'occuper l'espace par tous les moyens technologiques modernes, la musique, la radio, les médias en général, les paroles incontrôlées de ceux qui nous entourent ou qui occupent cet espace médiatique, et nous sommes ainsi bombardés jour et nuit, et tout un certain nombre de ces propos contiennent aussi des messages qui peuvent quelque part s'installer dans notre esprit à certains moments. Et puis il y a la voix de nos propres cœurs, des choses qui sont là depuis longtemps en nous, que la vie a fait que nous embarquions avec nous, comme des sortes de croyances qui se sont installées en nous, avec des messages enregistrés, même gravés, qui peuvent passer en boucle et qui souvent viennent de loin et nous ont placés sous la condamnation ou nous ont accablés. Et ils ressortent particulièrement dans les moments de faiblesse ou les moments où nous sommes fragilisés par les circonstances et les épreuves que nous traversons. Et nous finissons par penser que ce que nous entendons est vrai. Vérité semble s'installer sur nous concernant, ce que nous sommes, ce que nous valons, tu ne changeras jamais. Ça nous pousse à abandonner. C'est sans espoir pour toi. Dieu est fatigué de toi, laisse tomber. L'ennemi sera même capable d'imiter la voix de Dieu. Ce sont des choses qui peuvent nous accabler, qui viennent parfois de la fragilité de nos propres cœurs, de ce que nous ressentons par rapport à nous-mêmes. Et nous finissons même par penser que Dieu pense la même chose de nous, que ces messages, des voix qui se sont imposées à notre esprit, à notre cœur, ou ressent la même chose à notre égard. De quelque manière que notre cœur nous condamne, dit l'Écriture, Dieu est plus grand que notre cœur, plus grand que mon sentiment d'infériorité, d'insécurité ou d'incapacité. Au moment où Satan t'invite à abandonner, Dieu te convie à prendre du fruit de l'arbre de vie, qui est une image de la croix où Christ a tout pris, où tout a été acquis. Il nous donne la capacité d'avoir une pensée renouvelée, de pouvoir vivre une vie nouvelle. Il nous permet de croire que nous pouvons marcher sur un chemin sur lequel nous ne pouvions pas marcher précédemment avec nos propres forces. Tu peux devenir ce que Dieu a envisagé que tu sois. C'est l'arbre de vie. Alors mets-toi, si ce n'est pas encore fait, à l'écoute et Dieu va te mener plus loin dans la découverte de son chemin pour toi en lui. Que Dieu te bénisse.